du journal. Et le journal est présenté par Antoine Maret. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. La conférence de presse de Carlos Puigdemont cet après-midi à Bruxelles. Le président catalan destitué ne va pas demander l'asile, mais il souhaite faire pression sur l'Europe. Les accusations d'ingérence russe dans les élections américaines se précisent. Le ministre russe des Affaires étrangères est sorti de son silence aujourd'hui. Pour Sergueï Lavrov, toute cette affaire n'est que pur fantasme. Dans l'actualité française, une nouvelle journée pour le procès Mera. Après les réquisitions hier, on en est aux plaidoiries de la défense, avant le verdict attendu dans deux jours. Et puis nous irons au siège des Républicains où va avoir lieu ce soir un bureau politique qui doit décider de l'exclusion de 5 ministres et responsables constructifs pro-Macron. Ça ressemble à une fuite qui ne veut pas dire son nom. Carlos Puigdemont est bien arrivé en Belgique hier. Il va y rester avec une partie de son gouvernement indépendantiste catalan, officiellement par sécurité, mais il ne demandera pas l'asile. Le président catalan destitué s'est exprimé cet après-midi à Bruxelles lors d'une conférence de presse très attendue.
Est-ce que l'État va respecter les résultats que puisse donner une majorité aux forces indépendantistes ou non ? Parce que c'est clair de connaître ça. Parce que si ça n'est pas un engagement clair pour la partie de l'État, ça veut dire qu'il y aura des sortes de votants en Catalogne, de première division et de seconde. Ce qui, sur le résultat, pouvoir être appliqué, et ce qui, pas du tout, va être respecté par le gouvernement espagnol. Donc, j'insiste, gouvernement espagnol, êtes-vous prête à respecter le résultat, soit qu'il soit des élections ? Moi, oui. Le conjoint de la population catalane, oui. Mais il faut savoir, clair, sans ambiguïté, si c'est là que la position officielle du gouvernement espagnol.
Carlos Puigdemont, donc, pour cette conférence de presse cet après-midi à Bruxelles. Bonsoir Pierre Benazet.
Bonsoir.
Carlos Puigdemont veut rester au cœur institutionnel de l'Europe, selon ses propres termes. Il souhaite en quelque sorte prendre à témoin les institutions européennes.
Oui, effectivement, il n'est pas venu, comme on le croyait, pour rencontrer ses camarades nationalistes flamands. Après l'appel du pied du ministre chargé de l'asile et de la migration, le séparatiste Theo Franken au sein du gouvernement fédéral belge, il est venu pour l'Europe, il est venu non pas en Belgique, dit-il, mais à Bruxelles, une des capitales de l'Union européenne. Un appel du pied à nouveau pour que l'Europe s'implique, c'est ce que les Catalans demandent depuis dès avant le jour du référendum, et jamais l'Europe n'a voulu faire autre chose que de considérer qu'il s'agissait d'une affaire de politique intérieure espagnole, que la constitution espagnole devait être respectée ainsi que sa souveraineté et son intégrité territoriale. Bref, Carlos Puigdemont est finalement non pas choisi l'asile mais l'exil, puisque 5 des conseillers principaux, des membres principaux de son gouvernement sont avec lui. Il dit qu'il relèvera le défi lancé par Madrid des élections du mois de décembre. Carles Puigdemont dit qu'il est toujours le président de la généralité de Catalogne et que la gestion de la Catalogne se fera depuis de Bruxelles ainsi que de Barcelone, mais lui affirme vouloir rester ici en Belgique pour des raisons de sécurité.
Merci à vous Pierre Benazet. L'indépendance catalane ne semble donc plus que théorique. Dès vendredi soir, le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a mis la Catalogne sous tutelle, puis il a organisé les élections régionales du 21 décembre pour court-circuiter Carlos Puigdemont. Marie-Hélène Ballestero, bonsoir, vous êtes notre correspondante à Madrid et ce soir, clairement, Mariano Rajoy a marqué des points.
Oui, et il y a un conseil des ministres qui va démarrer là tout de suite à Madrid au palais de la Moncloa. Au programme de ce conseil des ministres extraordinaire, eh bien plusieurs questions, toutes en rapport avec la Catalogne. D'une part, il s'agit de faire un premier bilan après la mise en place de l'article 155 depuis samedi dernier. Rajoy veut demander à sa vice-présidente et à ses ministres qui ont assumé les compétences des conseillers de la région catalane, eh bien comment se déroule sur le terrain l'application de l'article 155. Alors pour l'instant, tout semble se dérouler normalement. Pendant ce conseil des ministres, il va aussi être question de l'organisation des élections régionales qui vont avoir lieu le 21 décembre, car jusqu'à présent c'était la région de Catalogne, bien sûr, qui les organisait. Et puis les déclarations de Puigdemont aujourd'hui à Bruxelles seront forcément au cœur des discussions de ce conseil des ministres qui se tient en ce moment. Le président du Parti populaire en Catalogne, Xavier García Albiol, a déjà réagi. Il a accusé Puigdemont de mentir, d'insulter les Espagnols et de provoquer un conflit social dans la rue. Albiol a rappelé aussi que personne ne poursuit Puigdemont pour ses idées politiques et qu'il va devoir rendre des comptes après avoir provoqué ou essayé de provoquer un coup d'État.
Alors Marie-Hélène, il y a effectivement un volet politique et un volet judiciaire. On a appris dans la journée que la présidente du Parlement allait être convoquée pour être inculpée et ce sera sans doute le début d'une longue série.
C'est bien ça, du côté de la justice, ça continue. Le tribunal constitutionnel a suspendu la déclaration unilatérale d'indépendance de la Catalogne. Hier, on apprenait que le procureur général de l'État espagnol annonçait avoir lancé des poursuites contre l'ensemble du gouvernement catalan destitué, ainsi que la présidente du Parlement catalan, comme vous le disiez, notamment pour rébellion et sédition. La plainte a été présentée devant le tribunal de l'audience nationale, mais aussi devant la Cour suprême. Justement, on a appris donc aujourd'hui que la présidente du Parlement catalan, Forcadell, et les 5 autres membres du bureau des présidents du Parlement ont été convoqués par la Cour suprême. Alors ils vont être entendus jeudi et vendredi prochain. Ils ont tous facilité le vote de la déclaration unilatérale d'indépendance vendredi dernier au Parlement catalan. Et les faits qui leur sont reprochés sont la rébellion, la sédition et la malversation.
Merci à vous, Marie-Hélène Ballestero. Les accusations d'ingérence russe dans les élections américaines se précisent depuis hier avec l'inculpation de 3 proches de Donald Trump. Elles se précisent au point que le ministre russe des Affaires étrangères est sorti de son silence aujourd'hui. Pour Sergueï Lavrov, toute cette affaire n'est que pur fantasme. À Moscou, les précisions de Jean-Didier Revoy.
Moscou reste inflexible et réclame toujours à la justice américaine de lui présenter des preuves permettant de démontrer que la Russie s'est ingérée dans l'élection présidentielle. Fantasme a même dénoncé ce matin le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Pour lui, il n'y a pas le moindre début de preuve d'une ingérence russe. La veille, Maria Zakharova, porte-parole du ministère, avait donné le ton, ironisant sur le fait que dans son acte d'accusation, la justice américaine fasse de Yulia Tymoshenko une ancienne présidente de l'Ukraine alors qu'elle n'était que premier ministre. Une erreur surprenante, certes, mais qui fait dire à Maria Zakharova que cela démontrait que cette affaire avait été montée dans la précipitation. Cet après-midi, Dmitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, a qualifié les accusations américaines de ridicules et sans fondement, car les poursuites visant Paul Manafort et son associé Rick Gates relèvent d'une affaire interne. Le conseiller de Donald Trump est accusé de n'avoir pas annoncé, comme la loi américaine l'y oblige, qu'il faisait du lobbying pour le gouvernement ukrainien et d'avoir soustrait au fisc américain des sommes importantes perçues des autorités ukrainiennes. Reste que, selon Facebook, près de 126 millions d'Américains ont vu sur cette plateforme 80 000 messages à caractère politique diffusés par des acteurs russes entre juin 2015 et août dernier. Des chiffres conséquents qui témoignent de l'importance accordée par la Russie à l'élection présidentielle américaine. Moscou a-t-il voulu peser sur le scrutin ou faire valoir un point de vue alternatif? C'est la question que la justice américaine doit trancher.
À Kaboul, c'est un adolescent de seulement 14 ans qui est à l'origine de l'attaque suicide qui a fait au moins 5 morts et une vingtaine de blessés. Sa ceinture d'explosifs a été déclenchée à l'une des entrées de la zone verte de la capitale afghane, une zone ultra sécurisée où se trouvent de nombreuses ambassades étrangères ainsi que des bureaux gouvernementaux. Les lieux avaient déjà été pris pour cible en mai dernier dans une attaque au camion piégé qui avait causé la mort d'au moins 150 personnes. Reportage à Kaboul de Sonia Ghezali.
Un hélicoptère de l'OTAN survole les lieux de l'attaque. Au sol, la rue est bouclée par des voitures de police. La barrière est soulevée pour laisser entrer 2 camions de pompiers. L'explosion a eu lieu quelques mètres plus loin. Mohamed était tout près. Amat et Mat, la quarantaine était dans son jardin.
I was surprised the explosion. I thought that it's very near to my house. First of all, I went to my house. I saw my children. They come from school or not? When I satisfied, yes, they come. Then I come to this site.
Les attaques contre la zone verte sont récurrentes, confie le résident.
These people who are the enemy of Afghanistan, they are coming in, suiciding themselves here, just to show that they can enter to any place. They just spread terror.
La zone verte est protégée par de nombreux barrages, par des hauts murs de béton armé. Impossible d'y accéder en voiture sans passer par un barrage de police. Le kamikaze était un adolescent qui circulait à pied, selon les autorités. L'exploitation des enfants pour perpétrer des attentats est un mode opératoire utilisé aussi bien par les talibans que par l'organisation État islamique.
Reportage à Kaboul signé Sonia Ghezali. Vous l'auriez remarqué, toutes nos excuses pour ces problèmes de traduction. En Tunisie, le procès du Bardo est donc reporté au 9 janvier. Il s'agit de l'attentat du musée du même nom au cours duquel 21 touristes avaient été tués en mars 2015. Les avocats de la défense réclamaient le report et la libération de leurs clients qui n'ont, selon eux, rien à voir avec cette affaire. À Tunis, les précisions de Maureen Mercier.
Ce sont les avocats des accusés qui ont réclamé le report du procès et dans plusieurs cas la libération de leurs clients. Ils estiment souvent que ces derniers n'ont rien à voir avec cette affaire et qu'ils croupissent injustement depuis 2 ans en prison. Leur argument, on ne peut accuser quelqu'un de terrorisme sur une simple puce téléphonique ou un lien de parenté avec un des auteurs de l'attaque. Il faut, selon eux, reporter le procès, approfondir l'enquête de manière à se rendre compte qu'ils n'ont aucun lien avec cette affaire. Le report du procès, c'est aussi ce que réclamaient les 4 avocats français venus à Tunis pour y représenter les victimes restées en France. Au sortir de l'audience, Alexandre Martin, avocat toulousain d'une famille de victimes, en voulait bien plus au gouvernement français qu'à la justice tunisienne.
Les victimes se sentent complètement désemparées et abandonnées par l'État français, à contrario des victimes des attentats qui ont eu lieu sur le territoire français. Voilà, les victimes du musée Bardo sont laissées pour compte, aucune prise en charge. Nous avons écrit à plusieurs reprises au garde des Sceaux, à Madame Belloubet, nous avons écrit au ministère des Affaires étrangères, nous avons écrit à la représentante des victimes au ministère de la Justice et nous n'avons à ce jour aucune réponse, ce qui nous paraît assez à minima indélicat, quasiment injurieux à l'égard des victimes que nous représentons.
Certaines victimes étaient représentées aujourd'hui par un conseil français qui avait fait le déplacement. Pour les avocats présents, c'est loin d'être suffisant. Les avocats réclament la visioconférence. Ils comptaient sur la visite en début du mois du Premier ministre français pour obtenir gain de cause, sans succès. Aujourd'hui, les victimes en France n'auront que leur avocat pour leur raconter ce qui s'est passé dans la salle d'audience.
18h passées de 11 minutes sur France Culture, l'actualité française une nouvelle fois marquée par le procès Mera. Après les réquisitions hier, on en est aux plaidoiries de la défense avant le verdict attendu dans 2 jours. Le premier avocat d'Abdelkader Mera demande l'acquittement pour l'accusation de complicité. Sur place, le récit de Florence Turm.
Ils sont 3 avocats à plaider dans l'équipe d'Éric Dupond-Moretti et Archibald Celleron et le premier à prendre la parole avec la partie sans doute la plus difficile, la complicité d'assassinat reprochée à Abdelkader Mera, ce crime pour lequel l'avocate générale a requis hier la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, le maximum prévu par la loi dans ce cas. Une accusation est toujours une construction intellectuelle, commence le jeune avocat, mais à ce point aussi rarement assumée. Lui va s'employer point par point à démonter les éléments à charge soutenus par le ministère public, des accusations fondées selon lui en partie sur les déclarations du frère aîné en rupture avec le reste de la famille et qui n'a pas vu Abdelkader Mera depuis 2003. A-t-il participé au financement des actes terroristes? Non. Que pouvez-vous tirer juridiquement des rencontres entre les deux frères? 4 ans d'instruction, 117 tomes de procédure, 250 fonctionnaires mobilisés sur les 9 mois d'enquête, détaille l'avocat. Et qu'avons-nous? Un blouson et en scooter, ce qui est en soi ridicule. Abdelkader Mera risque la réclusion criminelle à perpétuité pour un scooter qu'il n'a jamais touché, un vol improvisé, un vol d'opportunité. L'avocat referme ses dossiers, s'adresse à la cour. On n'attend pas de votre décision qu'elle lave le sang, elle ne séchera pas les larmes. Ce que vous allez faire, c'est rendre justice, appliquer le droit dans le respect de nos règles, les mêmes pour tous les justiciables. Fussent-ils haïssables. Et vous devez acquitter Abdelkader Mera. Conclusion accueillie par la salle dans un silence glacial. Et c'est maintenant son confrère, Antoine V, qui s'attaque à l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. L'autre incrimination retenue contre Abdelkader Mera.
La cour d'appel de Paris a condamné cet après-midi Serge Bichelin, l'ancien directeur de l'usine chimique AZF de Toulouse, à 15 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire. Il s'agit du 3e procès de la pire catastrophe industrielle récente en France, une explosion qui avait fait 31 morts en septembre 2001 à Toulouse. La société Grande Paroisse, société exploitante, filiale de Total, a elle été condamnée à 225 000 euros d'amende, l'amende maximale pour manquement aux obligations de sécurité. Un arrêt 16 ans après le drame qui ne sera pourtant pas le dernier. Bonsoir Sarah Maquet.
Bonsoir.
Les avocats de la défense ont en effet décidé de se pourvoir en cassation.
Pas de preuve d'accident chimique dans le dossier. Voilà l'argument des avocats de Serge Bichelin et de la société Grande Paroisse pour motiver le pourvoi en cassation. Des avocats de la défense qui, durant les 4 mois et demi d'audience, ont plaidé l'acte terroriste. Une piste clairement rejetée aujourd'hui par la Cour d'appel de Paris qui a écarté les travaux des scientifiques de Total. Les expertises judiciaires qui privilégient l'accident chimique ont-elles bien été validées ? La Cour d'appel condamne donc bien la mauvaise gestion des déchets de l'usine classée Céveso 2. Un soulagement pour les parties civiles. L'avocate de l'association Famille Endeuillée estime, je cite, que l'arrêt clôture beaucoup de fausses pistes dressées artificiellement par Total pour cacher une vérité qui dérange. Le groupe Total qui échappe par ailleurs à toute poursuite pénale, la Cour d'appel a rejeté la demande des parties civiles de voir juger le groupe pétrolier en même temps que sa filiale. La CGT, autre partie civile, juge pourtant également cette condamnation comme une victoire, malgré des peines inférieures à celles du dernier procès qui s'est tenu à Toulouse en 2012. Serge Bichelin avait à l'époque été condamné à 3 ans de prison, dont un ferme, condamnation ensuite annulée par la Cour de cassation. À voir donc si ce scénario de 2012 va se répéter. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, restera en tout cas pour les 2700 parties civiles une, je cite, « victoire après 16 ans de souffrance ».
Merci à vous, Sarah Maquet. Sans doute la fin ce soir d'un suspense très relatif chez les Républicains, sauf coup de théâtre. Les 5 ministres et responsables constructifs pro-Macron devraient être exclus du parti. Cela devrait enfin se décider ce soir lors d'un bureau politique au siège du parti où vous vous trouvez, Viviane Le Guen.
Oui, et ici rue de Vaugirard, on espère que c'est enfin la fin du feuilleton après le naufrage de la semaine dernière. L'exclusion des traîtres, comme les appellent Laurent Wauquiez et Nadine Morano, qui n'a pas pu se faire, faute de quorum. Alors ce soir, pas besoin de quorum, hein, pas besoin d'un nombre minimum de présents pour valider la décision. Une 30aine de personnes d'ailleurs sont actuellement à l'intérieur, c'est moins que la semaine dernière. Et ça devrait aller vite, 15 à 20 minutes, nous disait tout à l'heure Christian Jacob. Il s'agit simplement de valider ce qui a déjà été décidé. L'hypothèse donc d'un coup de force de ceux qui, au sein des Républicains, s'opposent encore à cette scission semble écartée. Et ensuite, à quoi faut-il s'attendre ? Eh bien, cette purge, comme le dénoncent certains, risque d'accentuer encore les divisions entre ceux qui, d'un côté, approuvent et ceux qui refusent, de l'autre, la droitisation du parti. Et puis, que vont devenir ces constructifs ? Une fois exclus, mettront-ils leurs menaces à exécution s'agissant d'un éventuel recours ? Ce matin, Sébastien Lecornu indiquait qu'il n'avait pas envie de se faire virer comme un malpropre. Fin de citation. Sébastien Lecornu qui, avec Édouard Philippe, le Premier ministre, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, et puis Thierry Soler et Franck Riester, est donc l'un des 5 membres du parti dont l'exclusion est discutée ce soir.
Merci à vous, Viviane Le Guen. Les députés français viennent d'adopter le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Il prévoit 5,2 milliards d'euros d'économies sur l'ensemble des dépenses de sécurité sociale. L'effort est principalement concentré sur l'assurance maladie. L'une des mesures phares de ce texte, et les plus contestées, fait basculer une partie du financement de la protection sociale des cotisations salariales vers la CSG. Le PLFSS a été adopté par 354 voix contre 192. Un rapport maintenant pour terminer qui fait l'effet d'une bombe une semaine avant la COP23. Il y a urgence, si rien n'est fait d'ici 2030, la hausse des températures pourrait être de 3 degrés d'ici la fin du siècle. C'est ce qu'affirme un rapport alarmant de l'ONU publié ce matin. L'ONU qui pointe un écart, je cite, catastrophique entre les engagements des pays pris lors de la COP21 et les efforts qui ont été réalisés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais il est encore possible d'éviter la surchauffe généralisée, Lise Verbeck.
Ah oui, les solutions existent, comme l'explique Lucille Dufour. Elle est membre du réseau Action Climat.
Les États, ils ont toutes les cartes en main, en fait, pour accélérer la cadence. Il y a les énergies renouvelables qui se développent à un rythme extrêmement rapide. Aujourd'hui, c'est 2/3 des nouvelles installations d'électricité dans le monde. Il y a aussi énormément de solutions qui existent pour faire la transition dans l'agriculture, dans les modèles de mobilité. Donc finalement, les États, ils ont toutes les cartes en main.
Tout est donc question de volonté politique pour accélérer le processus de transition écologique. Et si Donald Trump, à la tête d'un des plus gros pays pollueurs de la planète, souhaite se retirer de l'accord de Paris, il faut, selon Action Climat, s'appuyer sur d'autres leaderships comme l'Union européenne ou encore la Chine, qui a fait de gros progrès notamment dans l'énergie solaire. Les entreprises ont également un important rôle à jouer. Selon l'ONU, les 100 plus grosses sociétés mondiales sont responsables d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. Et là aussi, des solutions existent, comme la taxe carbone, selon Lucille Dufour.
Le prix du carbone, c'est un prix qui permet de donner un prix aux émissions de CO2 et donc d'inciter les entreprises et les acteurs économiques à réorienter leurs activités vers des activités qui sont moins polluantes et plus compatibles avec un futur qui soit désirable finalement. Et donc c'est ce genre de mesures-là, en plus de mesures réglementaires qui permettront aux entreprises de réorienter leurs activités.
La COP23 la semaine prochaine sera décisive car elle doit convertir les promesses prises lors de la signature des accords de Paris en actes. Et pour l'ONU, les États devront revoir à la hausse leurs contributions.
Merci à vous Lise Verbeek. Beau temps demain sur l'ensemble du pays. Les températures n'en resteront pas moins fraîches. 7 degrés à Nancy, 13 à Marseille, 17 à Nice. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun. Prochain journal à 22h, il vous sera présenté par Valentine Joubin.